Pompidou, Giscard, la marche vers la rigueur. Il est difficile de prendre la succession d'un homme tel que Charles de Gaulle. Pourtant, le pari est réussi par l'homme à la cigarette, l'ami des poètes dont la voix grave et le propos précis séduisent une France sensible à la simplicité. Pompidou et la nouvelle société. Georges Pompidou, issu d'un milieu modeste, image de la réussite d'un fils d'instituteur, Louis le Grand, normal sup, reçu premier à l'agrégation de lettres, laisse le souvenir d'un président débonnaire et proche du peuple. Georges Pompidou, Michel Rocard pour le PSU, Gaston Defer pour le PS, Jacques Duclos pour le PC, Alain Krivine pour les trotskistes, Louis Ducatel, un indépendant, et Alain Poher proposent aux Français d'être parmi eux un successeur au général. C'est Georges Pompidou qui l'emporte le 15 juin et devient le président de la République. Jacques Chaban-Delmas, ancien résistant, maire de Bordeaux, premier président de l'Assemblée nationale en 1958, est choisi comme premier ministre. Les années 70 sont le temps des grandes réalisations dans le domaine des industries de pointe, Airbus, la fusée Ariane. Le temps de la nouvelle société où les patrons et les salariés s'engagent à développer le partenariat social. C'est aussi le temps de l'Europe qui s'agrandit au Royaume-Uni, à l'Irlande, au Danemark. Le 23 avril 1972, Georges Pompidou propose aux Français, par voie de référendum, cette nouvelle carte européenne. Il récolte 50% d'abstention. La gauche ne demeure pas inactive. Au congrès d'Épinay, les 11 et 12 juin 1971, François Mitterrand prend la direction du Parti socialiste. En 1972, il signe avec les communistes un programme commun de gouvernement. Cette alliance inquiète le pouvoir en place, mais un autre souci commence à s'emparer de tous les Français. Le président est malade. Ils l'ont lu dans les journaux, ils l'ont vu à la télévision. Georges Pompidou, physiquement, a changé. Son embonpoint traduit l'évolution de sa maladie. Une maladie rare, un cancer sanguin, la maladie de Waldenström, dont il va mourir le 2 avril 1974, après avoir lutté courageusement jusqu'au bout.
La fin de l'exode rural. En un peu plus d'un siècle, la France a vécu une mutation sans précédent. En effet, si en 1850 on compte dans les campagnes environ 80% de la population totale du pays. En 1975, année où s'achève l'exode rural commencé au milieu du 19e siècle, 80%, parfois même 90% des habitants de l'Hexagone vivent dans les villes ou les zones périurbaines. L'industrialisation, la création du réseau ferré voilà 150 ans, la croissance des Trente Glorieuses après la Seconde Guerre mondiale, autant de raisons qui ont poussé, non seulement vers Paris, mais vers toutes les grandes villes, une grande partie de la population française. Aujourd'hui, beaucoup recherchent la maison individuelle avec le petit jardin, dans un cadre préservé de la pollution des grandes cités. Ainsi s'est amorcé l'exode urbain, facilité par les moyens de transport modernes et rapides.
Giscard d'Estaing, le polytechnicien. Grande bourgeoisie, polytechnique, ENA, combattant en Allemagne dans la première armée de Delattre, croix de guerre, c'est Valéry Giscard d'Estaing. Esprit brillant, à l'humour aiguisé, parfois coupant, il fait de louables efforts pour se rapprocher d'un peuple qui ne lui refuse pas sa sympathie, son image étant assouplie par les pitreries d'un Thierry Leluron et d'un Pierre Desproges qui exacerbent dans leurs imitations ses effets de manche et de bouche. 1974, c'est la fin d'une période de 30 années de croissance, de 1945 à 1974, que l'économiste Jean Fourastier appelle les Trente Glorieuses. Celui qui va commencer à écrire l'histoire de la période suivante, que certains historiens appellent par ironie ou dérision les Trente Piteuses, se trouve parmi les candidats qui se présentent à la présidence de la République le 18 avril 1974. Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, Jacques Chaban-Delmas, René Dumont pour les écologistes, Alain Krivine, Arlette Laguiller pour Lutte ouvrière et Jean-Marie Le Pen pour le Front national. la campagne électorale se prépare activement. Le 11 mai, un face-à-face télévisé est organisé entre Giscard et Mitterrand. Plus de 25 millions de téléspectateurs le suivent, sur presque 30 millions d'électeurs. Une phrase de Giscard, qu'on dirait presque tirée de Cyrano de Bergerac, traverse alors l'écran. On a dit que c'est elle qui a fait de son auteur le nouveau président de la République. À Mitterrand, qui analyse avec des compassions calculées la situation économique et sociale, Giscard répond
« Monsieur Mitterrand, vous n'avez pas le monopole du cœur !»
Résultat du scrutin, Giscard 50,8%, Mitterrand 49,2%. La petite phrase a parlé. La société libérale avancée. Jacques Chirac devient Premier ministre de Giscard le 27 mai 1974. Le nouveau président de la République décide de réduire la distance qu'impose sa fonction dans ses relations avec les Français. Il affiche une simplicité qui devient à la fois un atout et une cible. Plus généralement, il veut décrisper la vie politique. Son grand projet est la société libérale avancée. Des réformes sont conduites à bien, des décisions sont prises, la majorité est abaissée à 18 ans, le ministre de la Santé, Simone Veil, fait voter une loi dépénalisant l'avortement. L'ORTF, Office de la radiodiffusion et de la télévision française, éclate en 3 chaînes publiques. Cependant, les réformes économiques et sociales peinent à se mettre en place. De plus, des tensions sourdes se développent entre le président et le premier ministre qui, le 25 août 1976, déclarant ne pas disposer des moyens nécessaires pour exercer sa fonction, démissionne.
Les trois Simone. Il me paraît impossible d'imaginer pour l'Europe une renaissance qui ne tienne pas compte des exigences que Simone Veil a définies. C'est Albert Camus qui l'affirme à propos de Simone Veil, née le 5 décembre 1909. Sœur du célèbre mathématicien André Veil, élève du philosophe Alain, normalienne et agrégée de philosophie, elle a laissé une œuvre considérable, bien que la tuberculose l'ait emporté à 34 ans. Sa pensée tient dans la conviction qu'il faut réhabiliter le rôle de l'individu dans la société dominée par les machines et les choses. Issue d'une famille bourgeoise, elle veut connaître de l'intérieur la condition ouvrière, au point de se faire embaucher aux usines Renault en 1935. Engagée aux côtés des républicains et des anarchistes en Espagne en 1936, elle doit rentrer en France à cause d'une blessure. Pendant la guerre, elle trouve refuge aux États-Unis, puis à Londres, où elle ne peut s'entendre avec les gaullistes. Elle meurt le 24 août 1943 au sanatorium d'Ashford. Ses œuvres complètes sont publiées en 1988. Simone de Beauvoir est née le 9 janvier 1908 à Paris. Agrégée de philosophie, elle a partagé la vie de Jean-Paul Sartre. Si elle partage avec lui les convictions existentialistes, elle enracine son expérience d'écriture dans le concret, dans l'autobiographie qui lui permet de conduire une réflexion directe sur le vécu. En 1949, la parution de son œuvre, Le deuxième sexe, crée une onde de choc. Elle y démonte de façon énergique et engagée l'idée de la prétendue infériorité naturelle de la femme. Le deuxième sexe devient l'ouvrage de référence du mouvement féministe dans le monde entier. Simone de Beauvoir soutient Sartre dans ses activités politiques, voyage beaucoup, poursuit son action pour la libération de la femme. Elle est l'une des premières à prôner la libéralisation de l'avortement. Elle obtient en 1954 le prix Goncourt pour son roman Les Mandarins. Simone de Beauvoir est morte à Paris le 14 avril 1986. Il reviendra à une autre Simone d'obtenir en 1975 une loi sur l'interruption volontaire de grossesse, Simone Veil, avec un V et non un W. Née le 13 juillet 1927 à Nice, Simone Jacob est arrêtée en mars 1944 par la Gestapo et déportée à Auschwitz avec sa mère qui y mourra, ainsi que l'une de ses sœurs. Libérée au camp de Bergen-Belsen en 1945, elle revient en France. En octobre 1946, elle épouse Antoine Veil, futur collaborateur de Michel Debré. Après une carrière dans la magistrature, Simone Veil occupe le poste de ministre de la Santé de 1974 à 1979. Elle devient ensuite la première présidente du Parlement européen jusqu'en 1982. Ministre d'État de 1993 à 1995, elle prend en charge les affaires sociales, la santé et la ville. Depuis 1998, Simone Veil est membre du Conseil constitutionnel.
Les objectifs du professeur Barre. Raymond Barre, professeur agrégé d'économie à l'Institut d'études politiques, parvient à convaincre une France qui s'ignorait dépensière qu'il faut éteindre la lumière dans les pièces inoccupées, plutôt enfiler un pull qu'augmenter le chauffage. Bref, qu'il faut faire des économies. Et il y réussit. Jacques Chirac est remplacé par Raymond Barre, professeur d'économie politique et ministre du commerce extérieur depuis janvier 1976. Il dispose d'une importante marge de manœuvre puisque le ministère de l'économie et des finances lui est aussi confié. Il va conduire, à l'aide de plans successifs, une politique d'austérité visant à combattre l'inflation. Blocage des prix et des salaires élevés, augmentation des impôts. L'opposition se réjouit de ces mesures autoritaires et impopulaires qui, pense-t-elle, vont lui faire gagner des électeurs. Contre toute attente, c'est le contraire qui se passe, puisqu'aux élections législatives du 19 mars 1978, la majorité obtient 290 sièges et l'opposition, qui n'avait pas réussi à se mettre d'accord sur le programme commun de la gauche, 201 sièges. Raymond Barre est reconduit dans ses fonctions de Premier ministre. Mais la réussite de ses méthodes est mise à mal par le deuxième choc pétrolier en mai 1979. Le premier, en 1973, avait compromis la croissance, augmenté le chômage et l'inflation. C'est alors qu'est lancée une chasse au gaspillage. On cherche par tous les moyens à faire des économies d'énergie, afin de limiter les importations de pétrole. L'adoption de l'heure d'été en 1976 poursuivait déjà cet objectif. Malgré tous les efforts de Raymond Barre, le nombre de chômeurs atteint 1 500 000 et l'inflation est de près de 14% par an.
Pendant ce temps, chez nos voisins, le 4 novembre 1980, Ronald Reagan devient président des États-Unis. Il succède à Jimmy Carter. Le 31 octobre 1984, le premier ministre indien Indira Gandhi est assassiné. En novembre 1989, le mur de Berlin est détruit. C'est la chute du régime communiste. Le 3 novembre 1992, Bill Clinton devient le 42e président des États-Unis. Il est réélu en 1996. En 1994, d'avril à juillet au Rwanda, des extrémistes Hutus massacrent les Tutsis. En décembre 2000, George W. Bush est élu président des États-Unis. Son père avait occupé cette fonction de 1989 à 1993.
D'abord un bruit léger, pianissimo, murmure et file. Une étonnante rumeur commence à ramper, puis à courir dans les salles de presse et un peu partout à partir du mois d'octobre 1979. Le président, Valéry Giscard d'Estaing, aurait reçu à plusieurs reprises, et à titre personnel, des diamants de la part de l'empereur de Centrafrique, Bokassa Ier. Exploité par l'opposition, cette rumeur ne va pas s'éteindre. Elle se mêle à la campagne électorale de 1981 et remplace la petite phrase de 1974, sans qu'il faille cependant lui attribuer un rôle décisif. Valéry Giscard d'Estaing, au second tour des élections présidentielles de 1981, obtient 48,25% des suffrages et François Mitterrand, 51,75%.